Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi.
Cet évangile commence avec une histoire un peu surprenante, tirée la loi de Moïse, la loi du Lévirat, histoire un peu surprenante. Et on voit bien que les Sadducéens cherchent à pousser au maximum un raisonnement pour tourner en ridicule la résurrection. Et ceux qui croient bien sûr en la résurrection, pour éprouver aussi la foi de ceux qui croient en la résurrection. Et aujourd'hui encore, quand on en reste qu'à cette histoire-là, on peut être un petit peu surpris, voire même éprouvé. Ainsi, sachez que vendredi, dans l'après-midi, lorsque j'ai été célébrer la messe à la maison de retraite de Soulan, une petite grand-mère, juste avant la messe, vient me voir et puis me dit « Vous comprenez, s'occuper d'un mari pendant toute une vie, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un gros travail. Alors, s'occuper de 7 maris pendant toute une éternité, si c'est ça la résurrection, vous comprendre. » Alors je lui ai fait comprendre que j'allais, bien sûr, lui expliquer, enfin essayer de tenter de lui expliquer les choses. On voit bien qu'à travers cet évangile et cette histoire, il y a une réaction chez l'homme, en fait, quand on pense à la résurrection. La réaction naturelle, finalement, de l'humanité, c'est de savoir ce qui va demeurer après nous, ce qui va persister après notre mort, demeurer évidemment de nous. C'est la question peut-être qu'on peut se poser aussi à l'occasion du 1er novembre et du 2 novembre. Que restera-t-il de moi après la mort? Que restera-t-il de ce que j'ai construit? Que restera-t-il des relations que j'ai pu nouer? Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour se souvenir de moi après la mort? On voit bien que la question qui demeure aussi, c'est la question de cette permanence, de la continuité de cette vie, de ce qui demeurera après la mort. Alors, les hommes peuvent répondre de différentes manières. Certains vont se construire des monuments énormes à leur nom. On en voit à Rome, on en voit même en Corée, et bien sûr en France. On sait que certains auront des rues aussi à leur nom, des stades, voilà, on se souviendra d'eux. Puis d'autres aussi vont essayer de survivre à travers leur descendance, leurs enfants, que sorte. Leur nom sera toujours inscrit dans la mémoire de leur descendance. On se rappellera d'eux, bien sûr. Et à travers, c'est une réaction bien sûr tout à fait naturelle que nous pouvons avoir, et une réaction que nous pouvons parfois trop articuler avec notre conception de la résurrection. On va essayer même de la plaquer, c'est ce que font d'ailleurs les Sadducéens. Or, le Christ nous fait comprendre que la dimension de la résurrection est totalement différente. La résurrection n'est pas simplement une porte que nous allons franchir et y retrouver toutes les dimensions, toutes les réalités de notre vie, avec quelques bonus en plus, puisque nous n'allons plus mourir, nous ne serons plus malades, etc. Non. Le Christ nous fait comprendre que c'est une dimension totalement différente. Dans cette dimension de la résurrection, par exemple, plus besoin de procréer, de faire en sorte de faire attention à la suite des générations, puisque nous serons dans une création nouvelle, dans la plénitude de la création, en permanence recréée. Alors, revenons à cette question, que restera-t-il de moi après la mort? Ou plutôt, à travers cette question, qu'est-ce qui demeure finalement de cette vie que je retrouverai aussi dans l'autre vie qu'est la résurrection? Pour nous permettre déjà de comprendre comment on vit. Qu'est-ce qui demeurera? Alors bien sûr, pas la génération des succès, des hommes, pas notre génération, pas la succession des générations. Ce qui demeurera vraiment, c'est ce que nous dit le Christ en reprenant l'Écriture. Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ce qui demeure aujourd'hui et demeurera après notre mort, ce n'est pas les sentiments que nous avons pour nous, les uns avec les autres. Non, ce qui demeurera, c'est l'alliance que Dieu a créée avec Abraham, Isaac, Jacob et toutes les générations à venir. L'alliance que Dieu a créée avec toute l'humanité, l'alliance que Dieu a créée avec chacun d'entre nous, c'est cette alliance-là, l'alliance d'amour et de miséricorde, qui demeure aujourd'hui et qui demeurera après notre mort, dans la résurrection. Cette alliance-là, en quelque sorte, est le fil d'or qui nous guidera dans le passage de la mort. Cette alliance avec Dieu. Et cette alliance, nous en sommes marqués dès notre baptême. Par notre baptême, nous sommes faits enfants de Dieu. Il y a un germe d'éternité qui est déposé en nous, dans notre âme. Et Dieu choisit de faire alliance avec le nouveau baptisé. Dieu choisit de faire alliance avec nous, une alliance qui demeure à jamais. Cette alliance, bien sûr, nous devons en vivre, nous devons la cultiver en nous, ce que nous faisons d'ailleurs à chaque fois que nous venons à l'Eucharistie. Lorsque nous approchons de l'Eucharistie dans la procession de communion, nous tendons notre corps, notre bouche, nous tendons nos mains vers ce germe d'éternité, vers cet infini que nous allons recevoir sous la forme d'une hostie consacrée, sous la forme du corps du Christ. C'est ce que nous faisons. Et nous désirons, en venant à cette communion, nous désirons vivre de cette éternité dès à présent. Désirons vivre de cette résurrection dès maintenant. Nous pouvons comprendre donc, comme nous dit le Christ, à travers cette alliance d'amour et de miséricorde que le Père nous offre depuis notre baptême et qui durera pour l'éternité, que la résurrection sera totalement différente, une dimension différente. Alors, que restera-t-il de tout ce que nous avons noué? Que restera-t-il du mariage, par exemple? Bien sûr, il demeurera, mais d'une manière différente. Il sera comme transfiguré. Les époux seront appelés tous les deux à se tourner vers cet amour de plénitude que le Seigneur va leur offrir. Leur amour sera totalement transfiguré et ouvert à un amour plus grand que le leur. Nous serons tous tournés vers cet amour et ouverts à un amour plus grand que le nôtre, afin de pouvoir louer le Seigneur, afin de pouvoir totalement être renouvelés, recréer chaque jour, chaque jour, on peut dire dans la résurrection, il n'y a plus ni temps ni espace, mais recréé en permanence par le Seigneur, dans cette création nouvelle. Alors notre mission de chrétien en ce monde est de témoigner de ce germe d'infini, d'éternité que nous avons reçu à notre baptême. Puissions-nous en témoigner comme les martyrs d'Israël, comme les martyrs de Corée, qui n'ont pas craint d'être torturés et d'être martyrisés. En 1866, ils étaient 20 000 chrétiens, 8 000 ont été torturés et martyrisés au nom de leur foi. Mais parce qu'ils étaient sûrs, de cette alliance avec Dieu, sûrs de cette alliance d'amour qui allait les guider vers la résurrection. Que notre foi, donc, nous enlève toute peur, nous maintienne dans cette joie qui nous tend vers la résurrection et qui nous pousse à témoigner de ce qui nous anime.